Cinquième partie. Le mécanisme de contrôle. Chapitre 1. Emily Jo Rossman travaillait comme assistante vétérinaire dans la clinique pour animaux que dirigeait sa sœur depuis qu'elle avait renoncé à son métier de médecin légiste. Jane, plantée devant l'entrée de l'établissement, dévisageait les employés qui arrivaient au travail ce samedi-là à 7h du matin. Elle reconnut le docteur Rossman pour avoir vu sa photo sur son compte Facebook. Un visage couvert de taches de rousseur, des cheveux auburn coupés courts, une frange qui lui cachait le front. Avec son allure de garçon manqué, elle paraissait plus jeune que ses 38 ans. Elle avait un regard noisette si vif, un sourire si spontané, qu'on peinait à imaginer qu'elle ait pu choisir un jour de travailler dans une morgue. Jane lui montra son badge du FBI et Emily lui proposa de la recevoir dans le bureau de sa sœur. « Elle ne travaille pas aujourd'hui. » En lieu et place des portraits d'animaux auxquels on aurait pu s'attendre, les murs de la pièce étaient couverts de reproductions d'œuvres de Kandinsky. Jane n'aurait sans doute pas eu d'atome crochu avec la sœur de son interlocutrice. Au lieu de s'installer derrière le bureau, Emily se posa sur l'une des deux chaises réservées aux visiteurs qu'elle tourna vers celle de Jane. « J'espère sincèrement avoir deviné la raison pour laquelle vous souhaitez me voir. » commença-t-elle. « Laquelle ? » ?»« Vous venez me parler de Benedetta Ashcroft. » Qui s'est tuée au mois de juillet dernier dans une suite d'hôtels, précisa Jane. Yes! S'écria Emily en tapant par deux fois du poing sur le bras de sa chaise. Il était temps que quelqu'un prenne cette histoire au sérieux. Il était clair que les apparences étaient trompeuses.
Votre rapport d'autopsie évoquait pourtant bien un suicide.
Une overdose massive d'antidépresseurs mélangée à de la vodka, un mélange mortel. Elle avait avalé plus de 40 comprimés, preuve de sa détermination. Il en restait 36 autres sur la table de nuit.
Jamais elle n'en aurait obtenu autant avec une seule ordonnance. Elle les gardait par-devers elle ?
Sûrement pas, réagit Emily en repoussant sa mèche qui retomba aussitôt. Les comprimés ne se trouvaient pas dans des flacons, mais dans un sachet en plastique.
Elle les avait achetés à la sauvette, dans la rue ?
Jamais de la vie. Benedetta n'aurait pas su où se les procurer. Elle était de confession mormone. Elle ne buvait pas, ne se droguait pas. 27 ans, un mari dévoué, deux enfants. Elle était éducatrice pour enfants lourdement handicapés et adorait son métier.
Jane repensa à Helen Root, qui s'occupait également de handicapés. Le monde idéal concocté par le logiciel de Schenck n'avait pas de place pour les paraplégiques, les quadriplégiques, les aveugles, les sourds et autres infirmes en tout genre.
Docteur Rossman, est-il exact qu'en l'absence de traumatisme crânien, si la cause du décès semble évidente, le médecin légiste ne pratique pas d'examen du cerveau ? Emily se pencha vers son interlocutrice, bien décidée à défendre son travail.
« J'ai eu le cas d'un jeune homme tombé d'une échelle qui a fait une chute de 7 mètres. Mort sur le coup. Aucune fracture du crâne, pas de contusion, pas de lacération du cuir chevelu. L'examen du cerveau a fait apparaître de légères hémorragies périvasculaires au niveau du tronc cérébral. » La mort avait été causée par une séquence d'accélération et de décélération brusque au niveau de la tête, et non par une fracture liée à l'impact.
D'accord. Mais dans ce cas, aucune blessure anatomique ne permettait de déterminer la cause du décès, ce qui explique que vous ayez procédé à l'examen du cerveau.
Dans le cas de Benedetta Ashcroft, la cause du décès était évidente, et les caméras de surveillance de l'hôtel montraient que personne n'avait pénétré dans la suite jusqu'à l'arrivée de la femme de chambre le lendemain matin.
Emily se pinça les lèvres.
La famille refusait de croire à la possibilité d'un suicide. Ils voulaient savoir si une tumeur au cerveau n'avait pas pu influencer sa décision.
Les médecins légistes ont-ils l'habitude de pratiquer des autopsies exploratoires à la demande des proches ?
Autrefois oui, mais ce n'est plus le cas.
Elle hésita, les yeux fixés sur ses mains, comme si elles lui étaient étrangères.
Officiellement, j'ai démissionné car mon métier ne me convenait plus. En fait, on m'aurait limogé si je n'avais pas démissionné.
Pour quel motif ?
Benedetta Ashcroft était ma nièce. Je n'aurais jamais dû accepter de pratiquer cette autopsie. En fait, c'est moi qui ai tout fait pour qu'on me la confie, sans révéler mon lien de parenté avec elle.
C'est un délit. Emily posa sur Jane un regard aigu.
La famille était sous le choc. Son mari avait besoin de savoir pourquoi cette femme si joyeuse, cette mère si dévouée, avait pris une suite dans un hôtel pour mettre fin à ses jours. La présence d'une tumeur au cerveau aurait tout expliqué.
Rien n'empêchait la famille d'engager un pathologiste privé pour pratiquer une autopsie une fois le travail du légiste achevé. Emily approuva du chef, tout en continuant de fixer son interlocutrice.
Une telle démarche aurait pris du temps. Plusieurs jours, une semaine, peut-être davantage. Son mari, sa sœur, ses parents étaient plongés dans un tel chagrin. J'ai agi comme j'ai cru devoir le faire. Si vous saviez comme je le regrette.
Nous y voilà, pensa Jane. Si elle doutait encore de l'horreur qui attendait l'humanité, les découvertes du docteur Rossmann en ouvrant la boîte crânienne de sa nièce allaient se charger de balayer ses doutes.
« Je n'ai pas tout compris de votre rapport d'autopsie, » déclara Jane.
La légiste prit sa respiration.
« À l'examen des deux hémisphères du cerveau, j'ai tout d'abord cru à un gliomatosis cérébri, une forme de cancer très grave qui ne produit pas de tumeur localisée et se diffuse dans l'encéphale à la façon d'une toile d'araignée. »
Les yeux brillants de Jane firent comprendre à Emily qu'elle était déjà au courant.
« Mon Dieu, vous savez. Vous savez ce que j'ai trouvé. »
Peut-être, mais dites-moi.
Cela n'avait rien d'organique. Le cancer se manifeste de façon chaotique, alors que je découvrais des circuits complexes, parfaitement géométriques. Une sorte de système ou d'appareil, je ne sais pas comment l'appeler, qui avait envahi les quatre lobes, particulièrement au niveau du corps calleux. En le découvrant, je me suis dit, j'ai su que je n'avais jamais rien vu d'aussi terrible. De quoi s'agit-il?
C'est une sorte de mécanisme de contrôle.
Emily baissa la tête en serrant les poings.
Elle frissonna.
Qui? Pourquoi? Et surtout comment?
L'autopsie était filmée, rebondit Jane sans répondre aux trois questions.
Oui, mais le résultat n'est pas aussi probant que je l'aurais voulu. Peu après l'ouverture de la boîte crânienne, peut-être en réaction à l'air, ce mécanisme de contrôle, comme vous dites, a commencé à se désagréger.
De quelle façon ? Emily posa sur elle un visage livide qui faisait ressortir ses taches de rousseur.
On aurait dit qu'elle s'évaporait, un peu comme certains sels capables d'absorber l'humidité de l'air qui partent en déliquescence.
Jane comprit qu'elle se trouvait en présence d'une puissance quasi surnaturelle. Sans laisser de résidus ?
Des résidus très fins, presque transparents. J'en ai envoyé un échantillon au labo. Je n'ai jamais su s'il avait été analysé.
Vous avez rédigé votre rapport le jour même ?
Oui.
Vous n'étiez pas seule au moment de l'autopsie ?
J'avais un assistant, Charlie Wims. Il était terrorisé. Il est amateur de science-fiction et il a cru à une invasion d'extraterrestres. Moi aussi, à vrai dire.
A-t-il confirmé votre rapport ?
Dans un premier temps, jusqu'à ce que je lui explique que Benedetta était ma nièce. Il a très vite changé d'avis.
À quel moment vous a-t-on poussé à la démission ?
Le lendemain. On m'a donné le choix. Démissionner avec des indemnités ou un licenciement sec. Je n'avais pas vraiment le choix.
Où se trouve Charlie Wims aujourd'hui ?
Il a bénéficié d'une promotion, c'est lui qui a hérité de mon poste. Je le lui laisse bien volontiers.
Elle serrait les poings si fort que ses doigts en étaient engourdis.
Et si je comprends bien, le FBI s'est saisi de l'affaire ?
Poursuivit-elle. Pas officiellement. L'enquête se poursuit dans le plus grand secret. Veuillez ne parler à personne de cette conversation. Vous aurez compris pourquoi.
Les gens paniqueraient, tout le monde serait persuadé que nous sommes mis sous contrôle, que ce soit le cas ou non.
Exactement. En avez-vous parlé à la sœur de Benedetta, à son mari, à ses parents ?
Emily secoua la tête. Non, c'était trop inouï, trop terrifiant. Je leur ai dit qu'elle avait une tumeur au cerveau.
Ils ne se sont pas étonnés que vous quittiez votre poste ?
Je leur ai expliqué que j'avais passé trop de temps en compagnie des morts. Les gens ne comprennent jamais que vous puissiez accepter ce genre de boulot, alors ça ne les étonne pas quand vous arrêtez. Et vous-même?
Vous vivez depuis 8 mois avec ce secret.
Avant, je ne stressais jamais. C'est tout l'inverse à présent, même si je fais moins de cauchemars qu'au début.
Son regard se posa sur les abstractions colorées de Kandinsky.
Tout va si vite aujourd'hui. On finit par accepter des vérités qui nous auraient rendus fous autrefois. Le monde était un simple manège. Il s'est transformé en montagne russe.
Elle se tourna à nouveau vers Jane.
Je vis en sachant ce que j'ai vu. Je n'ai pas le choix, mais au fond de moi, je suis terrifiée.
Moi aussi, approuva Jane. Nous le sommes tous, ajouta-t-elle afin de donner l'impression que l'ensemble des agents du bureau s'employait à découvrir la vérité.